La Bible en 24 heures, Nouveau Testament. Nous avions déjà commencé avant les vacances, on reprend avec un peu de retard, mais ce soir nous nous proposons de voir le livre des Actes. Le livre des Actes ou la naissance de l'Église. Alors ce livre fait suite aux quatre évangiles et sert de support historique aux lettres du Nouveau Testament, aux épîtres du Nouveau Testament. Souvent, on peut voir la chronologie de ces épîtres en regardant les voyages des apôtres et en les situant, en recoupant les renseignements qu'il y a dans les différentes lettres et surtout avec le livre des Actes. Le livre des Actes couvre une période d'à peu près une trentaine d'années, entre l'an 30 à peu près et l'an 62, qui est l'époque du premier emprisonnement de Paul à Rome. On sait que ce livre a été écrit avant les persécutions de Néron, en 64. Paul, on pense qu'il a été martyrisé en 67 de notre ère. Et surtout, ça s'est passé avant la prise de Jérusalem par les Romains en l'an combien ? 70, l'an 70, où les troupes de Titus et l'empereur Vespasien ont mis à sac la ville de Jérusalem. Alors, quel est l'auteur du livre des Actes ? Luc, très juste, c'est lui qui a écrit l'évangile de Luc, et quand on regarde le début du livre des Actes, chapitre 1, il parle à un certain Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc c'est Luc qui écrit cette lettre avec beaucoup de détails. On sait que Luc était un médecin et il est reconnu comme un grand historien. Il avait un grand sens des détails, et des détails qui semblaient superflus ou peut-être douteux se sont révélés avec l'archéologie, avec les découvertes les plus récentes, comme étant d'une grande exactitude. Alors c'est intéressant parce que Luc raconte les événements du livre des Actes, mais à partir du chapitre 16, il s'associe à l'action. Au début, il raconte en disant « Ils ont fait ceci, Pierre a fait cela, Paul a fait cela. » Et à partir du chapitre 16, verset 10, il commence à dire « Nous avons fait ceci, nous sommes partis là. » Et comme je l'ai dit, le thème général, c'est la croissance de l'Église. La naissance et la croissance de l'Église. Et c'est aussi un peu le point de changement, le point de pivot entre le judaïsme et le christianisme. Et on voit comment les juifs et les non-juifs habitent maintenant ensemble dans l'église de Jésus-Christ. Alors, on appelle ça les actes des apôtres, et il serait peut-être plus exact de dire que ce sont en fait les actes du Saint-Esprit. L'apôtre Jean, dans l'évangile qui précède juste le livre des actes dans notre Bible, vous avez dit que vous avez rapporté les paroles de Jésus qui disait « Il est avantageux que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, 7. Il avait dit auparavant « Le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Plus loin, dans Jean 16, 13, il disait « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Il y a un passage qui peut poser question dans Jean 14, 12, lorsque Jésus déclare « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi » fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il est ajouté, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et on se dit, Jésus est en train de dire que les croyants pourront faire davantage que lui a fait. Et si on replace tout dans le contexte, c'est parce que le fait qu'il fallait qu'il remonte auprès de son Père pour nous envoyer l'Esprit Saint. Et lorsque Jésus marchait sur la terre, malgré toute sa puissance de Fils de Dieu, il était restreint à la localité, il était en un seul endroit à la fois. Alors que maintenant, chaque croyant en qui le Saint-Esprit habite peuvent travailler en même temps sur toute la surface du globe. On est là à Nice ce soir, mais il y a des gens à Kinshasa, il y a des gens en Amérique, il y a des gens en Chine qui sont en train de faire l'œuvre que Dieu veut qu'ils fassent. Et en ce sens, on peut dire que les œuvres que nous faisons sont plus nombreuses, sont plus grandes dans ce sens que celles que Jésus a faites de son temps. Mais ça, c'est un défi qu'on peut prendre personnellement chacun et se dire, est-ce que vraiment je crois que ma vie peut être utilisée pour faire des œuvres encore plus formidables que celles que Jésus a faites, bien que Jean dise que si on devait rapporter toutes les choses que Jésus a accomplies, tous les livres de la terre n'y suffiraient pas. Donc ça, c'est un peu un défi à notre foi, à notre confiance dans la parole de Dieu, savoir qu'en fait, il peut nous utiliser au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer ou demander. Le verset clé, on le trouve au premier chapitre. Jésus avait demandé à ses disciples d'aller attendre que le Saint-Esprit descende sur eux. Verset 8 du chapitre 1. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et en fait, ce verset clé qui nous parle de cette relation où le Saint-Esprit vient nous équiper pour être des vrais témoins de Jésus-Christ, il nous donne aussi les ordres de marche de l'Église. Là, c'était pour l'Église de Jérusalem. Ils devaient être d'abord les témoins à Jérusalem, ensuite dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est un modèle. Je ne crois pas que c'est seulement une expérience historique, je crois que c'est le modèle de l'Église aujourd'hui. Et si chaque Église locale adopte cette vision, alors l'évangélisation du monde va vraiment avoir lieu. Si à Nice nous disons, notre Jérusalem c'est Nice, la Judée c'est la Côte d'Azur, la Samarie c'est peut-être la région PACA, et les extrémités de la terre c'est Kinshasa, c'est Tahiti, c'est la Nouvelle-Zélande. C'est une façon de s'impliquer dans le travail du royaume de Dieu, de réaliser qu'on a un travail local, un peu au-delà et encore au-delà. C'est aussi ce verset, le plan du livre des Actes. Parce qu'en fait, on va voir les chapitres 1 à 8, qui représentent une période d'à peu près 2 à 4 ans. C'est le témoignage des disciples, les apôtres à Jérusalem. Les chapitres 8 à 12, c'est le témoignage en Judée et en Samarie. Et puis les chapitres 13 à 28, c'est le témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Paul, nous le savons, va terminer sa vie à Rome. Il est possible, certains disent que peut-être il est allé jusqu'en Espagne, mais on sait au moins qu'il est allé jusqu'à Rome. À l'époque, il n'y avait pas EasyJet, il n'y avait pas les NGV. Ça représentait des mois et des mois de marche sur les voies romaines. Et on a donc trois sections, la région de Jérusalem. Donc, brièvement, le chapitre 1, ça parle de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez que verset 10, il est dit qu'il regardait Jésus qui ascendait, qui montait dans les cieux. Et deux anges qui disent aux disciples d'arrêter de le regarder et qui leur précisent qu'il va redevenir de la même façon qu'il est monté. Le chapitre 2, c'est la période de la fête de la Pentecôte, la naissance de l'Église. Chapitre 7, on voit l'acharnement contre le premier martyr, Étienne, le diacre. La Pentecôte, c'était une des trois fêtes juives à laquelle devaient participer tous les hommes juifs. Et ils devaient venir à Jérusalem. Ça correspondait à ce qu'on appelait la fête des semaines. Et ça correspondait à 50 jours après, d'où le nom Pentecôte, après la période de Pâques. Et c'était en fait la célébration, la fête des moissons. Il se trouve donc à Jérusalem toute la population mâle de Judée et de Samarie. Et vous souvenez, lorsqu'ils sont réunis, les apôtres sont 120 à être réunis dans la chambre haute, et tout à coup il y a vient du ciel comme un bruit, comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison. Les langues qui semblaient de feu se séparent les unes des autres et se posent sur chacun d'eux, et là il est dit qu'ils furent remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est l'arrivée de l'Esprit Saint et c'est la naissance, vraiment, à proprement parler, de l'Église. Dans ce premier témoignage à Jérusalem, celui de Judée et Samarie, le personnage principal, c'est qui? Jules. C'est Pierre pour l'instant. Hein. Pierre va être celui qui va donner le premier sermon, le jour de la Pentecôte, à l'issue duquel 3000 personnes vont se convertir à la foi. Et Pierre leur explique que ces gens qui ont l'air, les gens qui les voient parler, se disent qu'ils doivent être déjà un peu saoulés avec du vin doux. Et Pierre leur dit non, c'est pas qu'ils sont saouls, mais c'est en réponse à ce qui avait été prophétisé par le prophète Joël. Le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Joël parlait de la fin des temps, mais on peut dire que là, avec cette première onction sur l'Église du Saint-Esprit, c'est un peu la fin des temps qui a commencé, c'est la période de l'Église qui commence. Le chapitre 7, c'est un passage remarquable, parce que c'est un résumé de l'Ancien Testament par Étienne. Et si vous vous souvenez, il explique qu'il parle des patriarches, il parle d'Abraham, de Joseph, de Jacob. Il explique comment les Égyptiens ont chassé persécuter les Juifs qui sont partis qui ont traversé la mer Rouge pour remonter au désert pendant 40 ans. C'est un passage remarquable parce qu'il résume très bien l'Ancien Testament. Et Étienne prend des risques parce qu'il est appelé devant le conseil, le Sanhédrin des Juifs, donc les autorités religieuses juives, et il leur explique que vous êtes devenus des meurtriers, que eux aussi ont participé à la mort de Christ dans la façon dont ils l'ont rejeté. Et si on regarde bien, on n'a pas le temps de le faire, mais je vous invite, si vous voulez le faire, à regarder le chapitre 7. Ce qui se passe, c'est que l'on a une logique dans ce sermon, de cette présentation d'Étienne, Et ce qu'il fait, en fait, c'est de dire que il y a des personnages qui ont été rejetés une première fois, puis acceptés. Ainsi, Joseph avait été rejeté par ses frères, et puis finalement ils l'ont accepté lorsqu'ils ont reconnu en lui leur sauveur. Moïse, de la même façon, il avait été rejeté, puis il a été accepté lorsqu'il est venu libérer son peuple. Les 10 commandements, il y a eu une première tablette de la loi qui a été brisée, puis il a fallu redonner une deuxième. Et en fait, si on suit la logique de ce chapitre 7, ça veut dire que ce Jésus qui a été rejeté une première fois, il va être accepté à son retour. Mais bien sûr, les chefs juifs ne le laissent pas terminer. Ils le lapident, ils le tuent en lui jetant des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive. Et là, on sait que, en fait, la personne qui tenait le vestiaire, c'était ni plus ni moins qu'un certain Saül, qui deviendra Paul. À propos de Paul, dans le premier chapitre, il est question du remplacement de Judas, qui avait trahi Jésus, et il y avait les apôtres ont décidé d'élire un 12e apôtre, et il est dit que le sort est tombé sur Matthias. Certains disent qu'en fait c'était un mauvais choix parce que ça aurait dû être l'apôtre Paul. C'est pas bien grave, c'est une façon de voir les choses. Mais en fait, les 12 apôtres, y compris Matthias, eux, leur but c'était d'annoncer l'évangile au peuple juif. Paul, lui, qui était un juif des juifs, qui l'explique dans beaucoup de passages, en fait, lui, il a été appelé par Dieu à annoncer l'évangile aux nations, c'est-à-dire aux peuplades païennes, aux non-juifs. Dans la première partie du livre des Actes, Jérusalem, c'est le centre de l'activité, de l'action. On a dit que Pierre, c'était le personnage le plus important. Et la parole de Dieu, donc l'évangile, est rejetée par les juifs de la terre promise, les juifs de Judée et de Samarie. On sait que Pierre se retrouve en prison. Le jugement va tomber sur Hérode dans Actes 12. Est-ce que vous vous souvenez comment Hérode a terminé sa vie, verset 23. Pierre avait pu s'échapper et Hérode était en colère contre les gardes et il avait demandé qu'on les juge et qu'on les exécute. Et suite à ça, il est dit qu'il était revêtu de ses habits royaux, qu'il discourait devant la foule et le peuple s'écria, verset 22, voix d'un Dieu et non d'un homme. C'est-à-dire qu'il commence à aduler Hérode, et à l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et rongé par des vers, il expira. Ça, c'est le jugement qui tombe sur le roi Hérode. À partir du chapitre 13, le personnage principal, ça va être qui? Oui? Qui? Paul. Paul. L'apôtre Paul va devenir le personnage sur lequel l'histoire, l'action va se concentrer. La ville principale, ça va être maintenant Antioche, qui est en Syrie, qui va être le centre païen de la chrétienté, païen voulant dire non-juif. Et on va voir que la parole de Dieu, elle va être rejetée par les juifs de la diaspora, la dispersion. Suite aux persécutions, les juifs s'étaient répandus dans tout le monde connu de l'époque. C'est ce qu'on appelle la dispersion ou la diaspora, comme les spores de plantes. Ils étaient répandus à toute la surface de la terre. Paul va passer aussi du temps en prison. Et le jugement, lui, va tomber sur les juifs. On peut voir un parallèle entre Pierre et Paul. Pierre, on a vu son premier sermon qui a donné beaucoup de résultats dans Acte 2. Paul, lui, au chapitre 13, va aussi prêcher la bonne nouvelle. Et puis, il va continuer à le faire un peu partout. Mais il a aussi un premier sermon plein d'effets. Pierre a guéri un boiteux dans Acte 3. Paul va guérir un infirme dans Acte 14. Dans Acte 8, Pierre va avoir affaire à un magicien qui s'appelait Simon. Simon, c'est celui qui voulait avoir l'Esprit Saint, qui était prêt à payer Pierre pour avoir l'Esprit Saint. Paul va avoir affaire à un autre magicien qui s'appelle Elimas dans Acte 13. Pierre va... On va voir son l'influence de son ombre. Son ombre va se projeter sur certaines personnes qui vont être guéries. Paul, ça va être son mouchoir qui va être touché, des gens vont être guéris. On a une résurrection avec Pierre, avec la petite Tabitha, acte 9. Pour Paul, c'est au chapitre 20, il y a une personne qui tombe du premier étage parce que le sermon était un peu trop long. Donc on est au rez-de-chaussée, là, on est sûr. Et cette personne, Eutyche, Paul l'endort, le fait tomber, mais il le ressuscite, alors il est pardonné. Dans les deux cas, les foules veulent les adorer parce qu'elles voient les miracles qui se passent, et Pierre rejette cette adoration dans le livre des Actes au chapitre 10. Paul aussi va se mettre en colère contre les gens qui veulent l'adorer, et on sait que tous les deux ont fait de la prison. Un autre personnage important, c'est l'apôtre Philippe. C'est pas l'apôtre, pardon, c'était le diacre. Lui, c'est dans Acte 8 qu'on en parle. Il est dit qu'il y avait une grande persécution contre l'Église. Et chapitre 8, verset 1, « Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Et on voit l'effet de la persécution. Souvent, les chrétiens... sont persécutés, et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu ne répond pas. En fait, ça peut être Dieu qui utilise la persécution pour répandre la bonne nouvelle à la surface de la terre. Si les hommes n'y vont pas d'eux-mêmes, il peut nous forcer à aller annoncer la bonne nouvelle. Philippe était en Samarie, et un ange du Seigneur lui avait signalé qu'il y avait sur la route de Gaza, il y avait un haut fonctionnaire éthiopien qui avait besoin qu'on l'aide à comprendre le livre du prophète Ésaïe. Et à partir du chapitre 8, verset 26, il est expliqué comment Philippe rejoint de façon miraculeuse l'endroit où se trouve le haut fonctionnaire éthiopien et lui explique la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est intéressant parce qu'en fait, le passage que lisait ce haut fonctionnaire, c'était le passage d'Ésaïe 53, qui dit qu'il a été mené comme une brebis à l'abattoir, comme un agneau muet devant celui qui le tond et n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération qui la racontera, car sa vie est supprimée de la terre. Et Philippe lui explique qu'en fait c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est toujours la meilleure façon d'interpréter les textes de l'Ancien Testament, c'est de voir ce qu'en dit le Nouveau Testament. Des fois on peut prendre un passage et lui attribuer une signification un peu ésotérique, un peu mystérieuse, mais la meilleure façon de vérifier ce qu'on avance, c'est de voir si déjà dans le Nouveau Testament il n'y a pas une explication. Et cet agneau muet devant celui qui le tond, Philippe nous explique qu'en fait ça représentait Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, il y a en Éthiopie, il y a des personnes qui s'appellent les Palash Mura, qui sont des juifs éthiopiens. Et il y a quelques années, il y a eu ce qu'on appelait l'opération Salomon, qui a été le retour au pays, l'Aliya, de beaucoup de ces Éthiopiens d'origine juive. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi eux, il y a beaucoup de juifs messianiques. Et pendant des années, les portes ont été ouvertes. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Et ces falaches murat, falachiens, ces juifs éthiopiens, sont en position délicate parce qu'ils sont rejetés par les Éthiopiens, mais ils ne sont pas acceptés par l'État d'Israël. Donc c'est aussi une situation très difficile. Et ce Philippe, lui, s'est installé à Césarée. C'est là que ses filles vont être des prophétesses, il nous est dit plus loin. Donc Philippe l'évangéliste. Antioche, après Jérusalem, c'est la grande ville du livre des Actes. C'était une grande ville cosmopolite. Il y avait une majorité de non-juifs. Et c'est là que les disciples de Christ vont être appelés pour la première fois les chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Lorsque nous nous disons chrétiens, nous voudrions vraiment être des petits Christ, refléter vraiment la personnalité, l'amour, la grâce, la justice. Nous devrions, pour reprendre le prophète Michée, nous devrions pratiquer le droit et aimer la bienveillance ou la miséricorde. Et marcher comment? Avec qui? Marcher humblement avec notre Dieu. Ça, c'était le thème du week-end à la montagne. C'est pour ça que je vous le redemande. Au chapitre 13, on voit qu'en fait, il y a vraiment c'est multi-ethnique, comme on dirait aujourd'hui. Il y a Barnabas qui vient de Crète. Il y a Siméon, qu'on appelle aussi Niger, qui est d'Afrique. Il y a un certain Lucius de Cyrène, la Cyrène ou la Cyrénaïque. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la Libye orientale. Donc il y a des gens de tous les coins du monde qui se retrouvent dans cette église. Pierre, on ne va pas passer en détail toute l'histoire du livre des Actes, mais vous vous souvenez de la grande vision de Pierre qui avait la vision de ce drap avec toutes sortes d'aliments qui descendaient du ciel et qui disaient « prends et mange ». Et la prophétie était, la vision était rapportée, plusieurs fois redite. Et ça, c'était pour la conversion de Corneille. Corneille, c'était un centurion ou un centenier de l'armée romaine qui était pieux et qui craignait Dieu. Il nous est dit au chapitre 10. Et il lui disait d'envoyer chercher un certain à Jaffa, un certain Simon, surnommé Pierre, qui logeait chez un cordonnier. Et en fait, Dieu parle à la fois à Corneille et à Pierre. Et de cette façon, les deux se rencontrent. Et Pierre réalise qu'en fait, le salut, l'évangile, c'est pas seulement pour les juifs, comme les juifs le pensaient jusqu'alors, mais c'est aussi pour les païens. Pierre va devoir expliquer sa conduite à Jérusalem. Et ça va conduire à ce qu'on appelle le conseil ou la conférence de Jérusalem, où on voit qu'un des personnages les plus importants de l'église naissante, c'était le demi-frère de Jésus qui s'appelait Jacques. Et Jacques et les autres décident qu'en fait, on ne va pas demander aux non-juifs d'appliquer la loi mosaïque, la loi de l'Ancien Testament. Et Pierre raconte même qu'en fait, si on ne peut pas leur demander d'obtenir, de suivre des règlements que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à suivre. Et il dit qu'en fait, si eux sont sauvés, les juifs aussi peuvent être sauvés de la même façon. Il prend le problème à l'envers et dit qu'en fait, il est convaincu maintenant que les païens peuvent être sauvés. Et il dit que les juifs doivent être sauvés de la même façon, et non plus par en respectant les 10 commandements et toutes les lois attenantes qu'on découvre dans le Lévitique et dans la Torah. Ils se mettent d'accord pour leur demander de s'abstenir verset 29 du chapitre 15, s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'inconduite, de l'immoralité sexuelle. Et c'est tout ce qu'ils demandent. On verra après, par la suite, avec Paul, dans Romains et Corinthiens, que même les viandes sacrifiées aux idoles, c'est purement une question de jugement personnel. C'est pas noir et blanc, c'est quelque chose qu'on doit décider en son âme et conscience. Et surtout, on doit... tradition qu'il a été crucifié à l'envers, il aurait à Rome, les Romains auraient voulu le crucifier comme ils avaient crucifié Jésus, et lui a dit non, je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon maître, donc il s'est fait crucifier à l'envers selon la tradition. Il est dit que dans 1 Pierre 5, 13, il est question de l'église qui est à Babylone. Et certains pensent qu'en fait Babylone c'était peut-être un nom de code pour Rome, mais d'autres tout aussi valablement pensent qu'en fait Babylone c'était une ville où il y avait beaucoup de juifs, et il est très probable que Pierre a pu aussi aller là-bas. On a ce qu'on appelle le Talmud babylonien, qui est un commentaire sur la loi qui vient de la ville de Babylone, mais ça va laisser la place à Paul, l'apôtre Paul. Lui, il était de la ville de Tarse. Tarse était une ville universitaire. C'était plus important même que Athènes ou Alexandrie. Paul a reçu une éducation très, très forte. Il était très bien éduqué, non seulement en langage grec, mais aussi dans la tradition juive, puisqu'il avait... était instruit par le rabbin le plus célèbre, le rabbin Gamaliel. Vous connaissez tous le chapitre 9, la route de Damas. Ça, c'est la conversion de Saül. On sait que parce qu'il était farouchement judaïque, plein de zèle pour la foi judaïque, Paul était rempli de haine pour les chrétiens et qu'il les chassait, qu'il les arrêtait, qu'il les faisait mettre à mort. Et il est expliqué dans le chapitre 9 qu'il avait des lettres pour aller saisir des chrétiens à Damas. Et en chemin, il voit une lumière qui resplendit dans le ciel, il entend une voix. Et cette voix lui dit, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? » Et lui répond, « Qui es-tu, Seigneur ?» Donc il savait déjà que c'était quelqu'un... qui avait le contrôle de sa vie, il était prêt à se soumettre. Qui es-tu, Seigneur ? Le Seigneur dit, moi je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et alors il lui demande, que veux-tu que je fasse ? Et Jésus lui répond, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc vous souvenez qu'il y a un certain Ananias à qui le Seigneur avait dit dans une vision qu'il devait aller chercher Saül de Tarse, qui était dans la rue appelée droite, qui existe toujours, on dit, à Damas. Et bien sûr, Ananias, qui avait entendu parler de la réputation de Paul, de Saül, à l'époque, comme un persécuteur de la foi chrétienne, il a fallu que le Seigneur le convainque en lui disant « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. » Donc son premier rôle, c'était d'aller devant les nations, c'est-à-dire devant les non-juifs, et aussi devant les fils d'Israël. On va voir cette façon de procéder de Paul. Il commençait toujours, s'il trouvait une synagogue, il allait parler dans les synagogues à ses frères juifs, mais il allait aussi dans les places publiques parler de l'évangile de Jésus aux non-juifs. La vue, après cette vision... qui est resté dans le langage commun, le chemin de Damas, c'est vraiment un moment dans la vie où on change d'optique et de direction. Dans le langage courant, ce chemin de Damas pour Paul, ça avait été un éblouissement, et il est dit qu'il était, lui, il avait des écailles sur les yeux, il était resté aveugle pendant quelque temps. Et à son baptême, ses écailles étaient tombées. Il avait recouvré la vie, il avait été baptisé ensuite. Mais on pense que dans plusieurs passages, en plusieurs lettres de Paul, il est question de problèmes d'yeux, où il écrivait en grosses lettres. On dit aussi que son aspect n'était pas impressionnant. Et on pense qu'il avait peut-être une maladie optique, une maladie ophtalmologique, qui l'empêchait de bien voir ou d'avoir du mal à écrire. Ça, c'est peut-être le résultat de cette rencontre spectaculaire avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Sans doute, la vision d'Étienne, qu'il avait vu lapider, était restée dans ses yeux, et vous souvenez qu'Étienne avait demandé, comme Jésus l'avait fait à sa crucifixion, « Seigneur, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font », lorsqu'il le lapidait. Après ce passage sur le chemin de Damas, Paul va passer 3 années en Arabie. Et là, il va être à l'école du Seigneur directement. C'est ce qu'il nous explique dans l'épître aux Galates, la lettre aux Galates, où il explique qu'il avait retrouvé Pierre et Jacques, et qu'ils avaient réalisé qu'il avait une doctrine correcte. Et on pense qu'en fait, Paul a passé une dizaine d'années à Tarse. Il a rencontré un certain Barnabas, qui l'a emmené à Antioche, cette ville de Syrie. Et ils ont travaillé ensemble. Une des choses qu'ils faisaient souvent, c'était de rassembler des fonds pour les chrétiens pauvres de Jérusalem. On pense qu'il y avait soit une persécution, soit des problèmes économiques graves à Jérusalem. Et Paul et d'autres chrétiens, c'est souvent un sujet dans les épîtres de Paul, la collecte et le transport des fonds à l'église de Jérusalem. Aujourd'hui encore, c'est souvent... Mouna nous parlait du ministère dans lequel elle est impliquée. Ça consiste à ramasser, à réunir des fonds pour aider les orphelins du Congo, Kinshasa. Alors, les voyages missionnaires de Paul, combien il y en a de voyages missionnaires? 3 ou 4? 4. Alors, c'est vrai qu'il y avait il y avait 3 voyages missionnaires, et puis le quatrième, c'est lorsqu'il est allé plaider sa cause devant l'empereur à Rome. Et étant Paul, il ne pouvait pas s'arrêter d'évangéliser, donc ça restait un voyage missionnaire. Le premier voyage, c'est les Actes 13, chapitre 13, verset 4, au chapitre 14, verset 27. Ils partent, on va regarder peut-être une carte. Jeune Timothée était originaire de Lystre. Ils vont être persécutés à Iconium, à Lystre et à Derbe. Ils vont mettre au chapitre 14, versets 21 à 23, ils vont mettre en place des églises, ils implantaient des églises et ils nommaient des anciens qui avaient charge de ces églises. Et puis, ils retournent retourne à Antioche. Ça, c'est le premier voyage missionnaire. Donc, c'est en schéma noir. C'est là qu'il va y avoir la suite de la conférence de Jérusalem, où ils vont se mettre d'accord pour ne pas imposer aux païens des rites judaïques. Ensuite, à partir du verset 38 du chapitre 15, on a le deuxième voyage missionnaire, c'est celui qui est en rouge, en bleu, pardon, c'est bien grave. Et là aussi, vous pouvez suivre sur votre carte. Il y a d'abord un problème entre Paul et Barnabas au sujet de qui ? Il y avait le jeune Marc pour qui Paul n'avait pas tellement d'estime à ce moment-là. Et Barnabas voulait prendre Jean-Marc, ou Jean-Marc, c'était son nom, son prénom. Et en fait, ils disent plus violemment qu'ils décident d'aller chacun de leur côté. Donc, Paul va partir avec un dénommé Silas, et Barnabas, lui, va aller avec Marc faire son voyage missionnaire. Donc ça, c'est le voyage en rouge. Ils vont aller Il va y avoir le fameux appel de Macédoine lorsque Paul veut monter vers la Bithynie, vers le nord de l'Asie mineure. En fait, il dit être empêché par le Saint-Esprit. Il se retrouve aller à Troas. De là, il va aller jusqu'à Philippe. Il va avoir cette vision d'un homme qu'il appelle de Macédoine. Appelle du Macédonien. Certains pensent que c'était peut-être à Troas qu'il va rencontrer, c'est là qu'il rencontre Luke, qui était grec, qui était le médecin grec. Certains disent qu'en fait c'était peut-être Luke qu'il avait vu dans cette vision. Mais toujours est-il que grâce à cet appel, l'évangile arrive en Europe. Puisqu'avant c'était l'Asie mineure, là l'évangile va arriver à Philippe, Néapolis, la colonie. Ils vont descendre jusqu'à Thessalonique, Bérée, Corinthe, Sancrée. À propos de Thessalonique, les gens étaient très réceptifs au message de l'Évangile. Mais à Bérée, il dit, Paul dit que les gens de Bérée étaient ils avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçoivent la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils examinent les Écritures pour voir si ce qu'on a révisé est exact. Paul se félicite de cette attitude qui consiste à ne pas simplement prendre les paroles annoncées par un prédicateur comme une vérité de l'Évangile, mais d'aller voir dans la parole de Dieu, dans la Bible elle-même, si c'est vraiment la parole de Dieu. À Athènes, Paul va faire un discours. C'est la ligne bleue, hein, c'est ici, là, par exemple. À Athènes, il va s'adresser à la montagne de Mars, ce qu'on appelle l'aérophage. Et là, il va utiliser ses connaissances de la langue grecque, de la poésie grecque. Il va adapter son message à son auditoire. Les Grecs avaient de nombreux dieux dans leur mythologie, et Paul avait remarqué qu'il y avait des statues, qu'on avait énervé de voir tous ces faux dieux, mais il avait remarqué que les statues avaient un dieu reconnu, et il utilise cette façon d'un dieu reconnu pour dire qu'en fait, ils voient qu'ils sont un peuple très religieux, et qu'il peut leur présenter, leur parler de ces dieux qu'ils ne connaissent pas encore, mais pour lesquels ils ont déjà une statue. Et c'est là qu'il annonce l'Évangile
aux philosophes grecs. Il cite aussi, n'hésite pas à citer certains de leurs poètes pour établir une relation d'échange avec son auditoire. Puis il va aller à Corinthe. Donc Corinthe était une ville connue pour sa débauche. C'était un peu. Aujourd'hui on dirait que c'est Pigalle, le quartier chaud de Hambourg. C'était une ville connue pour son immoralité. Il va passer un peu de temps à Corinthe, puis revenir en passant par Éphèse. À Jérusalem, retour à Antioche. Lorsqu'il repart en voyage, il implantait des églises, mais il continuait à entretenir des relations, à venir visiter, voir comment les choses se passaient. On sait que dans l'intervalle, il envoyait des courriers pour enseigner, pour reprendre. Ce qui est intéressant de remarquer, par exemple, qu'à Thessalonique, il n'était resté que quelques jours, mais quand il écrit sa lettre aux Thessaloniciens, il va leur rappeler les choses qu'il leur avait enseignées sur le retour de Christ. Sur l'enlèvement de vie, donc lorsque la confession est arrivée dans une ville, à quelques jours, il couvrait vraiment tous les sujets importants de la vie, ce n'était pas un survol enfantin. Il a continué, il y a des sermons de renaissance qui se rappellent que plus il était tombé de sommeil, il est tombé physiquement. L'apôtre Paul enseignait toute la doctrine de l'Église dans ses visites. Son troisième voyage, ça va donc être ici, ce voyage. Il repart sur le sentier rouge. Et puis ensuite, le dernier, ça va être le voyage pour aller à Rome, lorsqu'il en appelle à César. Paul était un citoyen romain, et il utilisait aussi cette particularité pour défendre ses droits annoncer, à parler en public. Et lorsqu'il va être condamné, il va faire appel à César lui-même, c'est-à-dire qu'il va devoir prendre le bateau pour aller jusqu'à Rome. Paul a été arrêté dans le temps, il a été attaqué par la foule, il est passé devant le Sanhédrin, devant Félix, et puis devant Festus, avant d'en appeler à César. Il a parlé devant le roi Agrippa, et puis là, finalement, il est parti pour Rome, avec à la clé plusieurs naufrages. Et ce qui est intéressant, c'est que, apparemment, sur l'île de Malte, on a retrouvé récemment les ancres d'après de Paul. Et le printemps prochain, il y a l'histoire de cette série, il y a la vie de Rocapel. J'avais l'idée de faire rencontrer toute la ville, quand même un groupe de voyageurs pour aller voir ces ventes qui ont été retrouvées à cette ville de Max, et pour raconter encore plus l'histoire des voyages de Paul. Paul se retrouve à Rome, assigné à résidence avec des gardes romains à qui il enseignait la parole. Il était heureux parce qu'il avait un éditeur fasciste. qu'il est attaché à son diable, c'est-à-dire que lorsqu'il est attaché à eux, qu'il est attaché à lui, il ne pas se saper, il ne doit plus se le manger. Et grâce à ses efforts, il y a rapidement, il y a un... L'évangile a été entendu dans la maison royale, la maison d'empereur, la garde prétorienne, et plusieurs hauts personnages romains sont devenus chrétiens. Donc ça c'est la deuxième partie de l'épître du livre des Actes, c'est donc le voyage de Paul. On a étudié en détail il y a 2 ou 3 ans le livre des Actes. Là c'est juste un survol. Ce qui est intéressant de réaliser, c'est qu'en fait on avait lu au tout départ que c'était le récit de ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. Et le livre des Actes se termine un peu de façon abrupte au chapitre 28, lorsque Paul est en prison. Il est dit qu'il demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans empêchement. Donc il avait une grande liberté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas une fin de ce livre des Actes pour la bonne et simple raison que le livre des Actes, il continue depuis. Et en fait, l'Église, l'histoire de l'Église, malgré tous ses problèmes, c'est l'Esprit Saint qui continue à agir et à nous aider à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc bien sûr, il y a la période historique du livre des Actes, de l'an 30 à peu près à l'an 62. Mais ce que Jésus a annoncé et ce que Jésus continue de faire et d'enseigner, ce n'est pas terminé. Et ça doit être une façon de voir les choses, de voir que nous aussi, on est appelés à jouer notre petit rôle dans l'annonce de l'Évangile, à voyager, à aller là où le Seigneur nous appelle, à implanter des églises, à participer à la vie des églises, à amener des fonds pour secourir certains. Mais ce qui est formidable, c'est de réaliser que le livre des Actes, on le vit aujourd'hui. Et il n'appartient qu'à nous de nous impliquer ou pas. Et tous, nous pouvons être utilisés par le Seigneur. Tous, nous pouvons être des instruments entre ses mains pour changer le monde pour lui. Et ça, c'est la leçon, en fait, du livre des Actes. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses historiques sur les grands apôtres, comme Pierre et Paul. Mais il est question aussi de bien des gens que l'on mentionne une fois ou que l'on ne mentionne pas par nom. Mais ça, c'est l'Église de Christ. Elle a commencé le jour de la Pentecôte, mais elle n'est pas encore finie. Et il y a tout un avenir. On apprend aussi que les Juifs, Dieu n'a pas fini avec eux. Lorsque Paul parlait de ce que Dieu avait fait avec les Juifs, il disait encore que le temple de David allait être restauré. Et ça, c'est ce que Paul va expliquer en plus grand détail dans Romains. On a vu ça il n'y a pas longtemps. Romains 9, 10 et 11. Dieu a un plan pour Israël. L'Église n'a pas remplacé complètement Israël. C'est vrai que nous sommes des croyants, nous faisons partie du peuple de Dieu, mais il y a une spécificité du vrai Israël qui va être qu'on va voir se réaliser à la fin des temps. Et ça, c'est aussi présent dans le livre des Actes. D'autres conclusions, c'est aussi le fait que ça nous permet d'établir des chronologies dans les autres lettres de Paul, on en a parlé. Et on voit surtout comment l'Esprit Saint était celui qui inspirait les actes. C'est lui qui était suivi et c'est lui qui avait donné, en survenant sur les disciples, la puissance pour être les témoins non seulement à Jérusalem,
en Judée, en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et je sais que il y a quelques années, Chuck Smith, le fondateur du mouvement Calvary Chapel, a été très heureux lorsqu'il a appris qu'il y avait une Calvary Chapel qui s'installait à Jérusalem. Il a dit, ça y est, la boucle est bouclée. Alors bien sûr, c'est pas bouclé comme ça, mais c'est l'idée que chaque église locale a un ministère local, un ministère à moyen terme, un ministère missionnaire, et que si toutes les églises fonctionnent sur ce schéma, alors c'est le schéma du livre des Actes, c'est le schéma voulu par Dieu, et c'est le schéma du succès de l'Évangile dans le monde. Des questions, peut-être ? C'est un survol rapide, encore une fois. Oui ? À peu près une trentaine d'années, jusqu'à l'an 62, la mort de l'emprisonnement de Paul. Entre le premier et le il s'est passé à peu près 15 ans entre les voyages missionnaires de Paul. Les voyages missionnaires de Paul. D'autres questions ? Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de... Oui. Oui. La plupart étaient polythéistes ou animistes. Les Grecs ou les Romains avaient leur mythologie avec leur famille de dieux et les disputes entre dieux. Donc il y avait vraiment un paganisme. J'ai pas de chiffres là en tête, mais par contre une chose qui est annoncée, ça avait fonctionné, surtout Paul pouvait dire que l'évangile avait été annoncé dans le monde de l'époque. Alors le nombre de chrétiens, on sait qu'il y avait des réponses massives à certaines prédications, et plusieurs fois dans le livre des Actes il est dit que l'église grandissait en nombre, que au fur et à mesure que les persécutions se sont arrêtées en l'an 360 quand Constantin s'est fait chrétien, et que le christianisme est... Voilà, donc, mais c'est vrai que dans l'Empire romain, on se souvient des jeux du cirque, quoi, où on persécutait les chrétiens. Il y a eu des... Oui. Mais en même temps, c'est vrai que ces persécutions ont fait que les gens se dispersaient, les gens annonçaient l'évangile, les gens vivaient pour leur foi. C'était radical. Terminé par un mot de prière. Seigneur, on te remercie pour l'exemple de ces personnes qui voulaient suivre l'Esprit Saint, là où tu les envoyais. Qui ont, dans l'humilité, marché avec toi, et que tu as pu utiliser dans leur obéissance, dans leur simplicité, dans leur amour de toi et des autres. Seigneur, on entend parler de ces personnes, de Timothée, de Barnabas, de Silas, et de bien d'autres, d'Orcas, cette femme qui faisait beaucoup de bien autour d'elle, au point que Pierre l'avait ressuscitée. Seigneur, donne-nous d'être aussi des serviteurs sans rechercher la gloriole ou être connu, une réputation, Seigneur, mais à marcher humblement avec toi et à faire ce que tu nous appelles à faire, Seigneur. Je te prie pour notre église, mais aussi toutes les églises de la région, Seigneur. Merci aussi de nous donner une vision missionnaire. Merci pour Mouna que tu as appelé à te servir en Afrique, qui a une vision maintenant, un cœur pour le faire. Je te remercie pour les autres missionnaires que nous connaissions, Seigneur. Pour ceux qui sont missionnaires ici aussi, Seigneur, donne-nous de vivre comme ces personnes l'ont fait, Seigneur. On a totale confiance à ta volonté et à ton amour. Nous à vivre dans les livres des actes au 21e siècle, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui ne cesse pas de vouloir sauver les gens, Seigneur. La souveraineté, tu as décidé d'utiliser des hommes et de faire n'importe quoi comme nous sommes. C'est vous d'avoir cette vision, d'être tes témoins, non seulement ici, mais au-delà, et jusqu'à l'extrémité de la terre. En plus, tu connais ce que ça, pour pouvoir le faire.
Au nom de Jésus. Amen.